Et nous avons le plaisir d'accueillir Alain Carsanti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste de l'environnement, chercheur et consultant international au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Alors avec vous, on va revenir sur cet accord inédit que l'Union européenne vient de sceller. Les 27 qui se sont entendus aujourd'hui pour interdire l'importation de produits s'ils contribuent à la déforestation. Alors d'abord, Alain Carsanti, expliquez-nous en quoi ce texte est inédit. C'est une première dans le monde ?
Pas tout à fait, c'est pas tout à fait une première. Disons qu'il a été annoncé assez tôt, mais les discussions européennes prennent toujours beaucoup de temps. Les Britanniques ont effectivement, depuis la fin 2021, ont un texte à peu près équivalent. Il est un peu près équivalent, avec une différence quand même notable, c'est que le texte britannique, disons, interdit les produits issus de déforestation illégale seulement, tandis que le texte européen ne fait pas la distinction entre déforestation qui serait légale et illégale. Donc de ce point de vue, c'est un des problèmes, c'est que des produits issus de déforestation qui sont considérés comme légales, comme légaux en tout cas dans un pays, parce qu'il y a une certaine définition de la forêt, pourraient être inacceptables sur le territoire européen.
Alors, parmi les produits concernés hein, par cette mesure, par cet accord, on retrouve le cacao, le café, le soja, l'huile de palme, le bois, également la viande bovine. Très concrètement, Alain Carsanti, comment est-ce que l'Union européenne va véritablement pouvoir contrôler les entreprises qui importent ces produits? Comment finalement l'UE va pouvoir s'assurer que les cultures de ces produits n'ont pas provoqué de déforestation illégale, comme vous le précisez?
Et de déforestation légale également, puisque justement, l'Europe ne fait pas la distinction. Pour l'Europe, quel que soit le type de déforestation, qu'elle soit légale ou illégale, ça ne doit pas rentrer. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Toute la charge va reposer sur les opérateurs et les importateurs, hein, sur les opérateurs économiques, qui vont devoir faire ce qu'on appelle une diligence raisonnée. C'est-à-dire prendre toute une série de mesures de vérification et de contrôle auprès de leurs fournisseurs pour s'assurer que les produits qu'ils mettent en marché n'ont pas contribué à la déforestation. Et pour cela, ils devront demander notamment que toutes les parcelles qui ont servi à la production de ces différentes commodités soient géolocalisées. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait des coordonnées GPS qui indiqueront les parcelles de production. Alors évidemment, ça va poser quelques problèmes, notamment pour toutes les filières qui sont basées sur des petits producteurs, des tout petits producteurs. Je pense au cacao d'Afrique de l'Ouest, je pense au café. En partie aussi à l'huile de palme, parce que là, la difficulté va être assez grande de pouvoir tracer
toute petite quantité. Oui. Ouais. Et très concrètement, les entreprises importatrices de tous ces produits, à quoi est-ce qu'elles s'exposent en cas de manquement à cet accord? Est-ce qu'un mécanisme de sanction est prévu par l'Union européenne?
Oui, des mécanismes de sanctions sont prévus. Ce seront effectivement en proportion si la diligence raisonnée n'a pas été faite correctement. Il y a des sanctions qui sont prévues en termes des sanctions financières, notamment sur les entreprises. Et des contrôles seront effectués de manière aléatoire, en fonction également du risque pays, puisque une des dispositions également de cette loi, c'est que les opérations de diligence raisonnée seront d'autant plus dures que le pays sera considéré comme un risque de déforestation. Il y a trois niveaux, et plus le pays sera classé comme un risque de déforestation, plus les contrôles seront sévères et plus les obligations des opérateurs seront difficiles.
Alors justement, Alain Carsanti, selon l'ONG WWF, l'Union européenne est aujourd'hui le deuxième destructeur de forêts tropicales au monde, derrière la Chine. Quels sont les pays producteurs de tous ces produits qu'on a évoqués qui vont bénéficier de cette mesure sur le plan environnemental ?
Alors déjà, il faut savoir que la déforestation au niveau mondial, il y a à peu près seulement environ peut-être 20% de la déforestation qui est liée au commerce international. Donc avant tout, si vous voulez, les moteurs de la déforestation, c'est la consommation des pays producteurs eux-mêmes. C'est le Brésil qui consomme du bœuf, etc., etc. Donc les pays effectivement qui sont aujourd'hui concernés, ça va être le Brésil notamment, grand producteur de soja et de bœuf, l'Afrique de l'Ouest, le Ghana et la Côte d'Ivoire, grand producteur de cacao, Vous avez également l'Indonésie, la Malaisie, grands producteurs d'huile de palme, l'Asie du Sud-Est aussi pour la production d'EVA, mais ça, il y en a un petit peu partout aujourd'hui. Donc, en fait, les productions intermondialisées, on fait de l'huile de palme un petit peu partout, on fait de l'EVA un petit peu partout, du caoutchouc naturel, donc ça va concerner a priori tous les pays.
Et dernière question, parce que vous parliez à l'instant du Brésil, le Parlement européen avait aussi réclamé justement d'étendre le champ de ce texte à d'autres écosystèmes boisés menacés, comme par exemple la savane du Cerrado, hein, qui couvre à la fois le territoire brésilien, paraguayen, bolivien, savane dont provient une grande partie des importations européennes de soja. Est-ce que cette extension du texte, elle est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle est étudiée par les eurodéputés?
Elle est étudiée. Disons que l'Europe se laisse un an pour réfléchir aux conséquences. Je pense qu'il est bon de prendre ce temps de réflexion parce que, si vous voulez, ce qui est valable au Brésil n'est pas forcément valable en Afrique. C'est-à-dire qu'au Brésil, il y a beaucoup d'autres alternatives. Il y a beaucoup de terres dégradées, des millions d'hectares de pâturages dégradés qui pourraient servir à faire du soja ou d'autres cultures. En Afrique centrale, par exemple, vous n'avez pas cette facilité. C'est-à-dire que soit l'augmentation des cultures pérennes se fait soit sur les savanes, soit elle se fait sur les forêts. Donc, en fait, ce qui est valable au Brésil n'est pas forcément valable n'est pas forcément valable en Afrique. Et c'est un des problèmes de cette réglementation, c'est qu'elle est trop indifférenciée, c'est-à-dire qu'elle essaie de traiter, au lieu de regarder au cas par cas les situations, on a des règles qui sont très rigides et qui vont poser certainement beaucoup de problèmes d'application, voire des conflits commerciaux assez importants avec des pays qui seront très mécontents qu'on ne prenne pas en compte le critère de légalité dans leur propre législation.
Merci beaucoup Alain Kersanti pour ce décryptage de l'actualité internationale ou en tout cas européenne du jour. Je rappelle que vous êtes économiste de l'environnement, chercheur et consultant international au CIRAD.